Good Morning Business, le monde qui bouge, l'interview.
Avec Annalisa Capellini qui me rejoint sur ce plateau, nous recevons Roland Gillet, professeur d'économie financière à l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne et à l'Université libre de Bruxelles. Bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous ce matin. On va parler de ces ministres des Finances du G7 réunis à Paris-Bercy depuis hier au gré des différents conflits, les tensions géopolitiques s'intensifient. Rien que cette nuit, pour parler vraiment de la dernière actualité, Donald Trump a annulé une attaque sur l'Iran qui devait avoir lieu aujourd'hui. Ce sont les conséquences économiques directes de ce conflit et du conflit ukrainien qui finalement truste les discussions et non les accords commerciaux, la dette des États, les déséquilibres économiques qui devaient au départ être discutés, encore une fois, Roland Gillet.
Oui, mais c'est toujours la même chose. On sait que le détroit d'Hormuz, on voudrait tous, et surtout les Chinois qui ne sont pas au G7, mais derrière sont encore plus concernés. Donc ce blocage-là est évidemment le problème majeur pour le moment. Et il est majeur parce que les prix de l'énergie sont un problème majeur pour beaucoup de pays, dont ce n'est pas tout à fait la même chose, même si le côté inflationniste n'arrange pas les Américains. Pour les Américains, puisqu'eux, ils sont d'abord exportateurs nets, ils ont de l'énergie et ils la vendent pendant ce temps-là, puisqu'il y a des blocages à certains endroits. Donc, c'est un jeu où, pour le moment, bon, en Ukraine, ça a plutôt tendance à s'enliser, mais ça coûte très cher à tous les Européens de se réarmer, et ils le font par endettement dans un climat où les taux d'intérêt, étant donné les pressions inflationnistes, ont tendance à remonter. De l'autre côté, les Japonais, eux aussi, sont sur une vision, il faut soutenir certainement le peu de croissance économique qu'on a partout, donc il faut éviter de faire remonter aussi les taux d'intérêt et de ne pas sensibiliser les Américains sur les risques aussi pour eux. Donc chacun y va avec ses arguments, mais chacun y va avec ses intérêts. Donc ça veut dire que, vous doutez, il y a des frictions, et il risque encore d'en avoir, et que ce soit pour un conflit comme pour l'autre, pour le moment, on ne voit pas une issue qui est évidente. Et parfois, c'est une issue où c'est la guerre qui continue ou la guerre qui recommence. Donc, c'est normal qu'on soit sur ces points-là et que les autres soient laissés derrière, même si vous avez vu que dans les sujets au départ, ils y étaient. Et n'oublions pas non plus, et ça c'est très important, c'est que ce G7 Finance est un préparatif du G7 beaucoup plus global qui englobe l'économie et les autres éléments du mois de juin. Donc ici, malgré qu'on devrait parler plus finance, la finance dépendant quand même de l'économie et les éléments qui sont là, ralentissant l'économie et augmentant le coût du financement des États, eh ben c'est ça qui est sur la table.
Oui. Annalisa.
Vous avez parlé de friction, de divergence par rapport à la guerre en Ukraine. Il y a des divergences aussi sur les réponses à apporter face à la Russie. Les Américains, ils ont une ligne plutôt souple. Hein. Ils ont publié une dérogation sur le pétrole qui va durer encore 30 jours. Nous, les Européens, on est plutôt partisans d'une ligne dure. Est-ce qu'on a vraiment notre mot à dire finalement ?
Ben, j'espère que oui, parce que le jour où on ne l'aura plus, ça veut dire qu'on aura été soit caricatural et qu'on ne nous croira plus, soit qu'à un moment donné, on aurait été tellement désunis, ce qui est souvent notre cas. Ici, on essaye de moins l'être en tous les cas. Donc oui, on voudrait bien peser. Par contre, vous avez vu, et c'est ce qui choque le plus les Européens, que ce soit au niveau du déroulement de la guerre, au niveau du détroit d'Hormuz, les Américains font les choses, nous les expliquent au mieux ou nous le disent après. Donc aujourd'hui, on est un peu sorti des leviers de pouvoir sur la commande guerrière. Au niveau de l'Ukraine, on voit bien que sans le soutien encore actuel de l'OTAN via aussi les capitaux américains, on a difficile d'être crédible, même si des drones coûtent moins cher que des avions. Et quand on fournit du matériel et qu'on le fait sur nos propres deniers, je prends dans mon petit pays, on fournit plutôt du matériel un peu obsolète, qui pour peut-être une guerre de tranchées peut fonctionner, mais certainement pas pour régler le problème de façon plus longue.
L'Union européenne pousse pour le maintien des sanctions contre la Russie. Le secrétaire au Trésor américain Scott Bessent, lui, a annoncé hier soir que la dérogation des États-Unis pour l'achat de pétrole russe sera prolongée de 30 jours. Est-ce que c'est le moment ? Je veux dire par là, pour compléter ce que je disais tout à l'heure, qu'on est dans l'immédiateté en réalité. Est-ce que c'est la mission du G7 Finance ?
Mais en tous les cas, je ne sais pas si c'est eux, ils ont évidemment les points qu'on a dit préalablement qui sont les plus importants, mais vous voyez, le problème, c'est qu'il y en a un qui a un agenda qui lui est très clair, parce qu'il a des élections importantes, c'est Donald Trump. Et donc lui, pour le moment, l'Ukraine, c'est bien embêtant, mais c'est un truc qui peut encore durer pour lui, ça ne va pas l'empêcher de vivre, d'ailleurs, ce n'est pas chez lui, et c'est pas ça, que c'est au niveau de l'énergie, mais je répète, il en regorge. Et en plus, les autres pays ont quand même trouvé du contournement. Et les Chinois, eux, à la limite, n'ayant pas condamné la Russie, vont chercher de l'énergie pas trop chère via la Russie. Donc tout ça ne lui semble pas urgent. Par contre, de l'autre côté, ce qui se passe dans le détroit d'Hormuz, et même sûrement dans les discussions avec Xi Jinping la semaine dernière, c'était sur le sujet, il faut arrêter ça, il faut trouver une solution. Et il était même sur le volet, vous pouvez aussi nous aider. Vous avez vu qu'maintenant, il demande à tout le monde de l'aider pour qu'on arrête cette histoire-là, que lui a commencé, avec les Israéliens peut-être, mais qu'il a commencé. Donc clairement, il a un agenda qui fait qu'il n'est pas du tout en face dans la rapidité avec laquelle il veut des résultats avec les autres. Regardez les Iraniens, ils sont nombreux autour de la table quand ils doivent prendre des décisions. Donc déjà, c'est compliqué, donc ça met du temps. Deux, eux, pour le moment, leur agenda n'est pas du tout lié à une élection et ils savent qu'ils ont peut-être, grâce à ça, un pouvoir où... Pour arriver à calmer le jeu, à réouvrir le détroit, il sera obligé de concéder quelque chose, Donald Trump. Et on voit que c'est ce jeu-là qui est là. C'est pour ça qu'à certains moments, il dit « j'en ai ras-le-bol d'attente », c'est un peu ça qu'il dit. Et je vais taper, et puis il dit « oui, mais si je tape, je vais encore faire pire ». Et on lui rappelle au niveau économique dans son pays que c'est pas bon non plus pour le consommateur américain devant les midterms. Parce que, je le rappelle souvent, quel est le seul prix que vous êtes obligé de voir, que vous consommiez ou pas le bien, c'est les prix de l'essence, et pas les prix de l'essence, le prix du baril. À la pompe, regardez un peu comme c'est écrit partout. Qui ne voit pas ces chiffres bouger, ouais, et ne les regarde pas en disant « ah oui, encore », et pense à tout ce qui peut avoir comme conséquence inflationniste, alors que c'est pour le moment limité quand même à ces prix de l'énergie, même s'il y a quelques retombées sur les produits carbonés, tout le monde a déjà l'impression que c'est une inflation généralisée. Et comme les taux d'intérêt remontent, ben tout le monde se dit « ah oui, c'est une anticipation », et donc ça, c'est pas bon non plus pour lui, pour le pouvoir d'achat des Américains. Mais c'est surtout ça qui l'ennuie. Et donc, les midterms vont le presser toujours à vouloir régler plus vite. Donc, en gros, lui, il a une exponentielle inversée, lui. C'est-à-dire qu'il sait que plus ça attend, pire c'est pour sa popularité. Et plus on attend, plus il doit avoir une réponse rapide. Donc, c'est ça qu'il fait. Et vous sentez qu'il est sur le moment. Je ralentis. Vous avez vu, il avait dit qu'il allait agir.
Puis parfois, dans la même phrase,
on s'arrête. Ben oui, ce qu'il veut, c'est pousser les autres. Et les autres disent Oh, est-ce que l'agenda ne nous sert pas? Je parle des Iraniens.
Oui. C'est vrai que face aux agendas de Donald Trump et de Xi Jinping, les Européens, ils cherchent une unité, ils essayent. Et il y a des voix plus écoutées que d'autres. Je pense notamment à Mario Draghi qui a dit à Aix-la-Chapelle que cette fois-ci, nous sommes seuls ensemble. Est-ce que ça veut dire désormais qu'on met sur le même niveau les Chinois et les Américains? C'est-à-dire que les deux sont des rivaux systémiques pour les Européens?
Mais c'est-à-dire qu'il y en a un qui, lui, est pour le moment factuellement la première puissance mondiale et qui reste quand même, avec le PIB et le reste, la première source d'innovation, même si les Chinois ont rattrapé, reste encore en termes de PIB les plus forts et sur le plan géopolitique aussi. Ça, c'est un fait. De l'autre côté, les Chinois, eux, sont des concurrents directs de nous parce qu'eux n'ont pas d'énergie, ou pas beaucoup comme nous, ou de la très polluante. Deux, ils sont sur la concurrence des produits et pas uniquement sur les services, ce que n'est pas le cas des Américains. Donc clairement, nous, quand on va vers les Chinois, on est avec les mêmes problèmes structurels de départ. Sur le plan géopolitique, on ne peut pas dire qu'on peut attendre une aide des Chinois dans nos conflits à nous. Au contraire, regardez, ils assurent pour le moment, grâce à ce qu'ils achètent à la Russie, des moyens à la Russie pour acheter du matériel militaire contre l'Ukraine. Donc, pour le moment, le seul qui pourrait jouer le jeu, si vous voulez être un peu plus friendly, comme on dit, amical avec nous, parce que nous, on trouve qu'il ne l'est pas du tout, c'est les États-Unis. Les États-Unis n'étant pas Donald Trump, et Donald Trump n'étant pas là jusqu'au bout, on a quand même intérêt à voir celui-là qui, lui, n'est pas du tout dans la même logique que le sont les Chinois en termes de compétitivité et de concurrence.
Oui, exactement. On demandera tout à l'heure à Roland Lescure si le multilatéralisme est bien encore possible. Interview dans un quart d'heure au micro de Laure Clausier, du ministre de l'Économie. Merci beaucoup pour cette analyse. Roland Gillet, professeur d'économie financière à l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne et à l'Université Libre de Bruxelles. Merci d'être venu dans la matinale de l'économie.